Livre du prophète Malachie, au chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue? Qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. Il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. Et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens et comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous en jugement, et je serai un prompt témoin contre les magiciens, et contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le mercenaire quant à son salaire, ou la veuve et l'orphelin, et qui font fléchir le droit de l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Les jours de vos pères, vous vous êtes détourné de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais vous dites, en quoi retournerons-nous? Le prophète Malachie, dont le nom veut dire le messager, justement, s'adresse d'abord à la sacrificature, au fils de Lévi, puis au peuple, à partir du verset 10 du chapitre 2. Nos proches nous concernent. Et dans ce livre, il y a des flèches dont les cibles sont nos propres cœurs et nos propres consciences. Mais s'il y a des flèches propres à nous atteindre, il y a aussi, il ne peut en être autrement, des consolations et des encouragements. De la part de Dieu, il en est toujours ainsi. Il ne nous laisse pas sans ressources, sans promesses, sans consolation. Déjà, dès le premier chapitre, alors que des reproches se sont succédés les uns aux autres, il peut dire au verset 9, « Et maintenant, implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce envers vous. » Non. Malachie le prophète s'associe au peuple envers nous. C'est vraiment un sacrificateur. Afin qu'il use de grâce envers nous. Il y a d'autres exemples dans ce livre. Nous avons ainsi des messages de grâce et nous en avons marqué dans notre lecture, certainement. Dans le chapitre 3, qui commence par « Voici, j'envoie mon messager », il est question sans doute de deux sujets différents. D'une part, de ses devenus et devenus du Seigneur, au verset 2, qui supportera le jour de sa vie, en gloire, en jugement, mais aussi, non pas qu'au verset 2 il soit question de ses devenus, mais au verset 2 il est question de sa venue en gloire et en jugement, et dans le verset qui précède, de sa venue en grâce. Il envoie son messager, ça a été Jean le baptiseur, d'une part, mais en même temps ça a été le Seigneur Jésus lui-même. Et les deux sont superposés, dans Malachie nous trouvons ainsi souvent deux sujets qui se superposent l'un à l'autre, mais nous n'entrons pas dans les détails. Nous voulons simplement remarquer que dans ce début du chapitre 3, nous voyons que Dieu intervient, qu'il a l'initiative, qu'il prend l'initiative. C'est une prérogative de la grâce de Dieu que de prendre l'initiative. C'est bien lui qui a pris l'initiative. Quand il a vu que nous étions perdus, haïssables, loin de lui, et que justement il a envoyé son messager qu'il s'est approché. non pas en tant que Dieu lui-même, mais dans un homme. Il nous aurait consumé, mais dans ce Dieu manifesté en chair, Jésus lui-même, comme le Samaritain, il s'est approché de nous et il a pensé de lui. La grâce prend toujours l'initiative. Nous en avons un exemple, par exemple, dans le livre de Ruth, quand il s'est occupé de ceux qui étaient allés à Moab pour y trouver du bien, du pain, pour y être à l'aise. Et il a commencé. La grâce de Dieu a commencé par enlever Élimélec, enlever ses deux hommes. Et puis, encore, elle a pris l'initiative en envoyant du pain, du blé à Bethléem, et puis en faisant retourner Naomi et Ruth jusqu'à Bethléem. Initiative de la grâce de Dieu. C'est lui à qui il appartient d'agir, d'opérer, d'intervenir. Voici, j'envoie mon messager. Et puis voilà, celui-là, et qui s'assied, celui qui purifie, celui qui affine. C'est encore la grâce de Dieu. On est quelquefois dans l'opposé, dans les flammes. Mais Dieu surveille. Il y a d'une part le feu de l'affineur, et le feu n'agit pas par lui-même, parce qu'il y a l'affineur. Il y a le feu de l'affineur, il y a l'affineur, et l'affineur surveille. Il surveille que le feu ne soit pas trop consumant, ne soit pas trop brûlant. Il ménage son effet. On sait ce que c'est que fait, ce que fait l'affineur. Il surveille l'éclat du métal en fusion et quand cette surface reflète son image, il arrête. Les scories ont pu être enlevées. Le métal est prêt pour sa gloire, pour refléter son image et surtout pour que l'offrande puisse être agréé, puisse être apporté à l'Éternel en justice. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. C'est ceci qu'il veut. Le Père cherche les adorateurs en esprit, en vérité. Il veut sa gloire. Il veut qu'il soit adoré, que son Fils soit exalté, que son Fils lui soit présenté. Mais on ne peut pas présenter cette offrande n'importe comment. Et auparavant, il faut passer dans le creuset. Et peut-être que nous connaissons maintenant. Les fils de Lévi, ceux qui ont la charge de sa sacrificature, sont passés au feu de l'affliction, affinés. Et lui, l'affineur, a comme but de pouvoir enlever les scories. Il dit un peu plus loin, en verset 5, les caractères qui sont manifestés au milieu du peuple. Et le résumé ou le comble, c'est que ce peuple ne le craint pas. C'est un sujet important dans Malachie, cette crainte de l'Éternel ou l'absence de la crainte. Craindre, c'est craindre de déplaire, bien sûr. Ce n'est pas la crainte servile, la crainte d'être puni, mais c'est la crainte qui honore Dieu, qui respecte, qui aime. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Quelle parole de grâce et d'amour. Il est le même. Et nous ne sommes pas consumés. On trouverait des paroles intéressantes à lire dans le chapitre 48 d'Ésaïe à ce sujet. Nous ne sommes pas consumés à cause de quoi? À cause de ce que nous sommes? À cause de nos mérites? À cause de ce que nous avons fait? Pas du tout. À cause de lui-même. À cause de son nom. À cause de sa gloire. Et c'est cela l'argument qu'il convient de présenter en intercession pour le peuple. Et Moïse savait fort bien le faire. Il présentait la gloire de l'Éternel qui s'attachait à son nom, qui s'attachait à son peuple, pour faire fléchir l'Éternel, pour solliciter sa grâce et sa miséricorde. Nous en avons un magnifique exemple dans le chapitre 14 du livre des Nombres. Moi, je ne change pas. Et puis, revenez à moi, je reviendrai à vous. Mais vous dites, en quoi retournerons-nous? En serions-nous là à nous demander comment retourner à l'Éternel. Sachons nous approcher comme nous l'avons chanté. Intercéder, rechercher le secours, la force, auprès de celui qui ne change pas.
René vient de dire flèche pour la conscience et
consolation. On le trouve d'une façon précieuse dans ce livre de Malachie, mais d'une façon aussi très précise dans les deux prophètes précédents. Dans le prophète Agée, au chapitre 1er, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 4. Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas. Au chapitre 2, toujours au verset 13. Et Agée dit, si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et Agée répondit et dit, ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi toute l'œuvre de leurs mains, et ce qu'ils présentent là, est impur. Verset 19. La semence est-elle encore dans le grenier? Même la vigne et le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas porté de fruits? Dès ce jour, je bénirai. Dans le prophète Zacharie. Chapitre 1er, verset 12. Et l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de Juda, et contre lesquelles tu as été indigné ces 70 ans? Et l'Éternel répondit à l'ange qui parlait avec moi de bonnes paroles, des paroles de consolation. Verset 16. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison y sera bâtie, dit l'Éternel des armées. Crie encore, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Et je levai mes yeux et je regardais, et voici 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Et il me dit, ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda. Chapitre 2, verset 5. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, je demeurerai, verset 10, au milieu de toi, dit l'Éternel. Chapitre 3. Et il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Verset 3. Et Josué était vêtu de vêtements sales. Fin du verset 4. Regarde, je fais passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Chapitre 4, verset 2. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois, et voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, 7 lampes sur lui, et sept lampes et sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et deux oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe et l'autre à sa gauche. Verset 6. Et il me répondit et me parla disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du faîte avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Chapitre 6, verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Et il germera de son propre lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera la gloire, et il s'assiera et dominera sur son trône, et sera sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix sera entre deux. Chapitre 9, verset 9. D'abord au chapitre 8. Verset 9. Ainsi dit l'Éternel des armées. Que vos mains soient fortes. Verset 13. Vous serez une bénédiction. Ne craignez point. Que vos mains soient fortes. Verset 15. J'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à faire du bien à Jérusalem et à Juda. Ne craignez pas. Ce sont ici les choses que vous ferez. Parlez la vérité chacun à son prochain. Jugez selon la vérité. Prononcez un jugement de paix dans vos portes, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les hais, dit l'Éternel. Verset 19, le jeûne du quatrième mois, et le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois, le jeûne du dixième mois seront pour la maison de Juda allégresse et joie, et d'heureuses assemblées. Chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, ayant le salut, humble et monté sur un âne, sur un poulain, le petit d'une ânesse. Chapitre 11, verset 18. Verset 12 plutôt. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon, laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Chapitre 12, verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et regarderont vers moi celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Chapitre 13, verset 5. Et il dira, je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. Et on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger, et le troupeau sera dispersé, je tournerai ma main sur les petits. Entre la prophétie d'Agé de Zacharie et celle de Malachie, qui nous a occupés il y a peu d'années. Et l'état spirituel du peuple de Dieu s'est encore dégradé. C'est sûr. Mais quand ces deux prophètes ont été suscités, l'état spirituel du peuple de Dieu était bien, bien bas aussi. Et pour tirer tout le bénéfice de ces deux livres, il faut bien comprendre pourquoi ces deux prophètes et dans quel temps ils ont été suscités. Dieu, dans sa miséricordieuse grâce, sa souveraine grâce, et comme notre frère aîné l'a dit, c'est Dieu qui prend l'initiative et fait remonter un peuple de la transportation de Babylone. Et c'est aussi, comme nous l'avons vu il y a peu de temps ici, une réponse aux prières de Daniel. Ce peuple est remonté parce que Dieu a provoqué ce réveil, Esdras 1. L'Éternel réveille d'une part l'esprit de Cyrus, et d'autre part, il réveille l'esprit de Zorobabel et les anciens de Juda. Par la proclamation. Le réveil vient toujours de la parole de Dieu. Ils ont reconstruit, en arrivant à Jérusalem, ils ont reconstruit l'autel sur son emplacement. On peut identifier ce réveil d'Esdras au réveil du siècle dernier où nos frères conducteurs ont retrouvé les vérités concernant le culte. C'est la première chose. La part de Dieu, d'abord. Et puis, ensuite, ils ont commencé à bâtir les fondements de la maison. Là, c'est concernant l'assemblée. La part de Dieu d'abord, l'assemblée, les vérités concernant l'assemblée ensuite. Ils y ont travaillé, et puis au chapitre 4 d'Esdras, on voit les ennemis qui interviennent, et les travaux sont arrêtés. Ils sont arrêtés pendant 6 ans. Consécutif à la peur, à la crainte, et pendant 10 ans, par interdiction formelle du roi de Babylone. Alors, il faut nous représenter un peu cette scène lamentable qui est le reflet de l'état du peuple. Nous avons tous vu peut-être une fois une maison dont les murs sortent de terre, peut-être à 1 mètre du sol, là, la construction est là, abandonnée. On a bien commencé, mais on n'a pas achevé. C'est ce que Paul dit aux Galates. Vous couriez bien, qui c'est qui vous a arrêté? Alors, cette maison de Dieu, cette œuvre de Dieu, commencée mais inachevée, c'est peut-être l'image de la vie d'un jeune croyant aussi. On se souvient qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques mois, on était heureux dans le Seigneur. On avait bien commencé, on avait commencé par lire la parole, prier. Et puis, ce n'est qu'un souvenir. Et là, c'est collectif. On se souvient aussi collectivement, comme il est dit dans Zacharie, cette belle parole, d'heureuses assemblées. Il y a quelques années, nous avions d'heureuses assemblées, d'heureuses réunions, où l'Esprit de Dieu agissait, nous étions paisibles et heureux, et puis c'est du passé. L'édifice est à moitié achevé. Mais l'Esprit de Dieu ne veut pas que nous en restions là. Satan nous dit: oui, vous avez manqué individuellement, collectivement, restez par terre. Il nous montre, Satan nous montre nos fautes. Il nous montre notre vie, notre misérable état. Il veut étendre un voile noir sur nos misères. Restez par terre. Le Saint-Esprit ne nous dira jamais cela. Il nous montrera nos misères. Oui, toujours. Il nous relèvera. Il nous montrera la grâce qui relève, cette petite porte de la grâce. Comme pour le salut, le croyant a souvent à y passer par cette petite porte. On n'y passe pas avec beaucoup de bagages, ni beaucoup de prétentions, mais le Saint-Esprit a toujours une issue pour le peuple de Dieu, comme individuellement. Alors voilà ce spectacle désolant de cette maison de Dieu qui est... C'est d'autant plus grave que c'est la maison de Dieu. À moitié montée, cette œuvre de Dieu, soit dans le cœur d'un croyant, soit collectivement, à moitié montée, à moitié finie. Et alors c'est dans ce contexte que est suscité les prophètes Zacharie, Agé et Joël. Là encore, Dieu prend l'initiative d'envoyer ces deux hommes. Et tant que le Seigneur parle à son peuple, ah, quelle bénédiction! Mais si le Seigneur ne parlait plus, s'il se taisait au milieu de nous, mais ça serait terrible. Il suscite encore ces deux prophètes, il suscitera un peu plus tard Malachie, mais c'est une miséricorde. Tant que Dieu parle à son peuple, même pour lui dire des choses dures, pour lui envoyer des flèches pour sa conscience. Et alors nous avons ce beau verset dans Esdras. Ils prospérèrent par la parole, par la prophétie d'Agé et de Zacharie. Alors ce verset nous pose une question. Est-ce que nous aussi, maintenant, nous ne pourrions pas prospérer par cette prophétie d'Agé et de Zacharie? Est-ce que nous ne pourrions pas être relevés de nos misères, de nos faiblesses, pour continuer justement la construction? Ou plutôt pour laisser faire le Seigneur en nous et dans l'Assemblée. Parce que nous ne pouvons rien faire, mais laissons-le faire ce qu'il désire faire. Ils prospérèrent par la prophétie d'Agé de Zacharie. Alors, seulement quelques courtes pensées, comme un survol de ces deux prophètes, qui sont bien sûr une mine d'instruction. Alors nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des flèches pour la conscience, c'est nécessaire, et il y a une consolation comme un peu un baume. Les deux choses sont assorties dans ces prophètes, c'est continuel. La première flèche pour la conscience, et bien aussi pour la nôtre, vous habitez dans vos maisons lambrissées. Alors, le premier écueil, le premier danger dans lequel, le premier travers dans lequel étaient tombés ces Zorobabel et Josué et le reste du peuple, pas seulement les conducteurs, ils étaient plus responsables, mais l'ensemble du peuple, était tombé dans la recherche des intérêts personnels. Les intérêts personnels. Ça, nous connaissons cela. Hein. Pas besoin de nous l'enseigner. Ça vient tout seul. Attaché à nos intérêts personnels. L'apôtre Paul, dans les Philippiens, est obligé de dire avec certainement beaucoup de tristesse. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Si l'apôtre Paul revenait, qu'est-ce qu'il dirait parmi nous? Alors d'un côté, il y a mes intérêts propres, matériels, terrestres, et puis il y a ce qui s'appelle les intérêts de Jésus-Christ, lesquels je vais rechercher. Et ce sont deux intérêts, en somme, dans la vie du croyant qui se combattent. La chair veut servir ses intérêts propres. Et bien entendu, le nouvel homme sert les intérêts du Seigneur, de son maître. Vous lambrissez vos maisons. Quelquefois, nous disons, oui, avec l'apôtre Paul, nous sommes étrangers et forains sur la terre, de passage. Il ne faudrait pas jouer sur les mots parce que nous avons des maisons très confortables, cossues, luxueuses. Nous avons des voitures luxueuses aussi. Est-ce qu'il y a du mal dans tout ça? Qu'est-ce que nous devons faire à l'égard de tout ça? Quelle est la juste attitude? Est-ce que c'est supprimer tout ça comme veulent le faire certains et n'avoir que sa chemise sur le dos? Non, c'est pas ce que le Seigneur demande. Il nous demande de dire « Merci Seigneur pour cette maison confortable, pour cette voiture confortable, pour que je vienne à la réunion. Merci pour toutes ces facilités. » Mais que mon cœur ne s'attache pas à ces choses. Mon cœur n'est pas là.
et les intérêts du Seigneur, de mon maître. Voilà la juste attitude. Peut-être que nous l'avons perdue dans une mesure. Il l'avait perdue ici. La maison de Dieu était dévastée et ils s'occupaient que de leur maison. Ils y couraient. Ils couraient chacun à leur champ. Et le résultat, c'était au verset 11, la bénédiction comme la rosée était retenue. Ce terme retenu est très fort. C'est terrible quand la bénédiction est retenue au sein du peuple de Dieu. Premier écueil, donc au chapitre 1er, la recherche est dans notre monde, c'est cela. Une recherche effrénée des intérêts personnels, du bien-être. Et tout cela, dans ce monde, c'est une série de mensonges du diable. Si j'avais ceci, si j'avais cela, je serais plus heureux. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Et les chrétiens souvent tombent dans ces mensonges ou les croient.